Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous ce Magic Mirror, dans ce salon perdu, puisque c'est son nom. On aurait presque pu faire cette table ronde à l'extérieur, finalement, vu le sujet. On aurait été aussi bien dans le parc du cours, puisque nous allons partir en forêt, figurez-vous, avec nos auteurs. Nous allons voir ces forêts sous différents angles, sous différents aspects. On verra que certaines sont plus protectrices que d'autres, ou les deux à la fois. Ça, on verra au fur et à mesure des discussions avec les uns et les autres. Le premier qui va être passé à la question, eh bien, c'est l'auteur de l'année, en quelque sorte, le coup de cœur des Imaginales, David Brie. Eh oui, je ne vais pas te ménager dès le début. David Brie, avec ce roman que nous avons tous remarqué l'an passé et que nous avions tous eu envie de défendre à cette époque-là, et puis que Stéphanie a encore plus aimé que nous et qui l'a poussé à te proposer d'être le coup de cœur cette année, donc Que passe l'hiver. Ou alors le cadre est plutôt une clairière à l'origine, mais qui dit clairière dit forcément une forêt pas trop loin autour. Avant qu'on rentre dans le détail, comment est né cet univers si particulier de Que passe l'hiver et dans quel contexte l'histoire se déroule-t-elle ?
Alors Que passe l'hiver, c'est effectivement un roman qui se passe dans un monde qui s'appelle La Clairière, qui est un monde qui est clos, complètement clos. Il est fermé par une chaîne de montagnes infranchissables d'un côté, par une immense forêt impénétrable qui s'appelle La Lisière, qui la ferme de l'autre côté. Et le nom de La Clairière m'est arrivé avec évidence, parce qu'effectivement c'est un monde qui est empli de forêts, qui est empli de lacs et de rivières et de montagnes. C'est un monde où la nature est reine et où l'homme n'est là que parce qu'il survit dans quelques villages et quelques châteaux. Pourquoi La Clairière et d'où vient ce monde ? Ce monde, il vient, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler, effectivement, de toute cette image de la forêt et de toute la puissance que, pour moi, dégage la forêt. La forêt, c'est, à mon sens, la source de quasiment tous les mythes, parce que la forêt, c'est à la fois la vie, avec la nourriture et l'abri qu'elle propose, mais c'est aussi la mort, avec le danger, avec l'obscurité, avec tout ce qui peut se cacher dans le noir, dans les branches, sous les feuilles. Et inventer une histoire qui se passe dans un monde qui s'appelle La Clairière, qui est juste une sorte de spot sur ce qui va se passer. La Clairière, c'est une... Quand j'écris Que passe l'hiver, j'ai eu cette envie, un peu comme une pièce de théâtre. Je racontais une histoire, j'allais raconter une tragédie, et il me fallait la scène pour cette tragédie. Et la scène, ça serait La Clairière, qui est, comme je dis, un environnement très naturel, très paisible, où allait se dérouler la tragédie de Que passe l'hiver.
Eh ben, on va évidemment y revenir tout au long de cette table ronde et découvrir ce qui se passe aussi dans cette forêt, puisqu'il y arrive également des événements nombreux. Stéphane Plateau, Le Sentier des Astres, c'est le nom du cycle. Et puis le premier tome, Manèche, on va commencer par lui, même si c'est vrai que la forêt traverse une grande partie du cycle, y compris dans les deuxième et troisième tomes. Mais cette forêt, au départ, lorsqu'on la découvre... Elle nous entoure, elle nous enferme presque d'une certaine manière, elle est omniprésente.
C'est vrai qu'au début du récit, on suit ces hommes qui naviguent sur le fleuve, qui remontent le fleuve dans une forêt qui est un peu l'équivalent de la taïga, c'est la forêt boréale. Et cette forêt est tout à fait inconnue, elle est même un peu hostile. C'est curieux, c'est qu'on est dans un roman qui se passe dans des grands espaces ouverts et en même temps, on a l'impression d'être dans un huis clos. Un huis clos sur des bateaux qui sont isolés par l'eau et qui sont isolés aussi au milieu d'une forêt que quelque part ils hésitent à pénétrer, dans laquelle ils hésitent à rentrer. Au Moyen-Âge, la forêt, c'était un milieu qui était craint, qui était inconnu. Certaines peuplades encore aujourd'hui du monde ne rentrent pas dans la forêt s'ils n'ont pas une bonne raison pour le faire et le font en s'excusant, en entrant en relation avec la forêt, le font pour une tâche donnée. Excuse-moi, mais j'ai besoin d'un peu de bois mort, je vais rentrer dans cette forêt qui n'est pas le domaine des hommes. Et moi, c'est un peu cet esprit-là que je voulais retrouver. C'est la forêt dans ce qu'elle a vraiment de magique, de monde étrange, et qui, en même temps, quand on la pénètre, se révèle être une cité à part entière, une cité organique, une cité où les rares hommes qui l'habitent ont trouvé le moyen de se fondre dans cette organique d'une manière ou d'une autre.
Alors ça, on y reviendra, mais justement, ce qui est très intéressant dans le... dans Manèche, en grande partie de ce premier volet, c'est justement que ces personnages, ce sont des étrangers, finalement. Il y a cette sensation, véritablement, qu'ils pénètrent dans un monde qui n'est pas le leur et que, finalement, on n'est pas certain qu'ils soient vraiment les bienvenus.
Mais oui, même le barde de l'expédition, la première fois où il chante sur la berge au bord de la forêt, hésite à le faire et chante en douceur, parce que c'est la première fois que la forêt entend sa voix et qu'il ne veut pas la brusquer. Et que bon, la voix des bardes, évidemment, est une voix hautement reconnaissable. Donc, ils sont des étrangers, ils doivent se faire à cet univers. Au départ, ils ne sont pas sûrs d'ailleurs de quitter vraiment leur bateau. Et en effet, ils ont aussi le sentiment que la forêt abrite des choses anciennes. Et ça, c'est l'autre puissance de la forêt, c'est qu'elle peut dissimuler les mythes anciens. Et c'est exactement ce qu'elle fait dans les Sentiers des Astres. Elle dissimule les anciennes puissances, les géants, les dieux, des choses qui sont à la fois terreur, fascination, qui nous dépassent complètement. Et donc, effectivement, c'est dangereux de rentrer dans la forêt.
Patrick Dionnet, le cycle de Sif, là aussi, on va voir que la forêt tient des rôles, même, j'ai envie de dire, particuliers, en tout cas pour le moment, dans les deux premiers tomes qui sont parus, hein, puisque rappelons que c'est un cycle qui devrait faire 7 tomes au total. Oui. Et même d'emblée, finalement, elle est présente, puisque même Sif, c'est un peuple des forêts, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Sif, c'est le nom d'un des peuples qui habite la forêt à l'extérieur de laquelle le personnage est retrouvé lorsqu'il est très jeune. Et donc, comme on ne sait pas trop comment l'appeler, on l'appelle Sif du nom de ce peuple-là. Effectivement, Sif, le personnage lui-même est sorti de la forêt. D'ailleurs, la thématique de la forêt, c'est quelque chose que j'exploite depuis très longtemps dans mes livres, essentiellement parce que, c'est un lieu que moi je fréquente pas mal, en fait, pour la petite anecdote. J'ai vécu quelques années en autosubsistance, en fait, et j'ai vécu dans une ferme en Corrèze qui était vraiment cerclée de nature, et j'ai passé énormément de temps dans ces forêts-là, y compris durant mon enfance. Et moi, je suis vraiment clairement baigné de mon imaginaire, en tout cas, est imprégné de la forêt dès mes premières années.
On retrouve d'ailleurs cette expérience dans L'Enfant de Poussière, puisque à un moment, Sif se retrouve justement dans la forêt, à vivre avec un de ses mentors, oui. Là aussi totalement en autosuffisance.
Oui, en autarcie. Oui.
C'est vraiment quelque chose qui a été nourri par votre expérience.
Oui, c'est complètement. Je ne sais pas si c'est l'endroit d'en parler ou pas, mais avant d'écrire de la fantaisie, j'ai publié.
Mais tu as le droit de parler de tout ce que tu veux.
J'ai publié des romans à la Manufacture de Livres, donc qui étaient plutôt des romans, on va dire, de littérature générale ou plutôt des romans noirs. Crow, qui est le premier livre que j'ai écrit là-bas, c'est un bouquin que j'ai passé en gros 10 jours avant d'écrire ce bouquin dans la forêt en bivouac sur le plateau de Mille Vaches, dans les mêmes conditions que mon personnage, c'est-à-dire avec un couteau, un fil de pêche que mon personnage n'avait pas, et rien d'autre, quoi. Et du coup, à vivre de la forêt. Mais ça, c'était quelque chose que je faisais assez souvent. La collection, en fait, dans laquelle ce bouquin-là s'inscrivait, qui s'appelait Territory, était née de retraites d'auteurs que je faisais tous les ans avec 3 autres auteurs. On allait installer un bivouac dans une forêt en Corrèze. Et on passait 4-5 jours là-bas, en autarcie. Pas en autarcie. On amenait quand même avec nous des quantités très déraisonnables de vin. Mais sinon, voilà, ouais, c'est quelque chose que c'est un univers, en tout cas, que je fréquente dans à peu près toutes ces dimensions depuis toujours, quoi.
On y reviendra, évidemment, et puis on verra que la forêt a d'autres rôles dans le cycle de Sif, oui. Et en particulier dans le deuxième
tome. Peut-être on boit du vin. Oui,
oui, voilà, exactement. Colin Heine, dernier auteur à notre table. Alors, auteur qui nous arrive pour la première fois aux Imaginales, le premier roman qui porte ce très beau titre de La forêt des araignées tristes. Alors, je vous ai gardé un peu pour la fin, pas parce que vous êtes un petit nouveau, pas parce que c'est votre premier roman, mais parce que par rapport aux trois autres, ça va être un petit peu différent dans la manière dont on va aborder votre livre. La forêt, elle est dans le titre, elle est dans le roman, mais elle n'y tient pas forcément autant de place que ça peut être pour vos petits camarades. En revanche, elle est un enjeu, et elle est même un des enjeux centraux de cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu cette forêt et puis nous parler un peu de l'univers dans lequel se déroule ce roman ?
Oui, alors moi j'avais effectivement envie de raconter une histoire dans un univers steampunk. Et steampunk, ça se dit aussi, on dit aussi en français rétrofuturisme. Donc on a un peu ce mélange d'avenir et puis de passé. Et comme tu l'as dit, la forêt du titre, elle se retrouve dans le roman, en fait, dans deux chapitres. Mais elle joue un rôle central dans le monde, mais aussi dans l'intrigue. Et en fait, ce qui me plaît là-dedans, c'est que à ce titre, elle représente une sorte d'engrenage dans toute la mécanique dans laquelle vont se retrouver pris mes personnages. Et à ce titre, la mécanique, l'engrenage, et ben là, on a quelque chose de moderne, on a quelque chose d'urbain, on a quelque chose plutôt de futuriste qui intègre une forêt, donc dans ce cas-là, de sauvage, de primal. Alors en plus, comme c'est un univers fantastique, moi je trouve que la forêt, c'est génial, hein. D'un point de vue scénaristique, n'importe quel cerveau malade comme le mien peut inventer des créatures toutes plus fantasques les unes que les autres. Et donc c'est un espace en fait de création vraiment, vraiment très agréable. Et à cet égard, oui, j'avais envie, je l'ai même pas prévu consciemment, mais je savais que j'allais avoir une scène d'exploration dans une forêt parce que ça me plaît et parce que la forêt, en termes de rebondissement ou de danger, elle a quelque chose d'immédiat, en fait. Elle a quelque chose de constant. C'est-à-dire que le danger, il peut être caché derrière le prochain arbre, en réalité. On ne sait pas ce qu'on a autour de soi. On est un peu toléré, en tout cas dans mon roman, par la forêt. Et ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue narratif, me paraît très, très intéressant, en tout cas qui me plaît beaucoup.
Elle a cet aspect presque vivant. Lorsque les explorateurs s'y plongent. Elle a aussi, peut-être par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, même si on verra que ça va se contraster un peu avec les trois autres auteurs présents à la table, là, pour le coup, cette forêt-là, on n'y trouvera absolument aucun aspect bienveillant. Hein. D'entrée, d'emblée, on sent que la menace est là.
La menace est là, oui. Pourquoi ? Bah, écoutez, c'est l'univers qui est comme ça. Moi, vous savez, j'aime beaucoup Indiana Jones. Et quand je pense à Indiana Jones, tout de suite, j'ai les premières images du premier film. Ils sont dans une forêt. La forêt, elle est pas sympa. Voilà. Et comme l'a dit David, c'est vrai que la forêt, elle est comment dire, je crois que tu as dit à l'origine de tous les mythes. Moi, je pense au conte. Hein. Bon, il y a Petit Chaperon Rouge, c'est la forêt, il y a le grand méchant loup quand même. Et puis, dès qu'on a des enfants à perdre parce qu'on ne peut pas les nourrir, on va les perdre dans la forêt quand même. Donc, pour moi, oui, la forêt. En même temps, j'aime bien la forêt, il n'y a pas de souci. J'aime bien m'y promener. Mais dans une histoire, je trouve que c'est vraiment un espace de défi pour les personnages. Et c'est comme ça que j'avais envie de le représenter.
David Brie, cette forêt, elle accueille donc chaque solstice d'hiver une réunion entre clans d'un royaume dont on ne sait finalement pas grand-chose autour de son roi. Or, cette rencontre, cette année-là, va être un peu différente des précédentes. Je vous entendais ce matin dans la table ronde qui vous était directement consacrée avec Stéphanie Nico évoquer ça déjà, c'est qu'il y a une ambiance de fin de règne en quelque sorte et que forcément dès qu'on sent un peu de faiblesse chez le monarque, tout de suite les ambitions sont décuplées. Ces clans, on ne sait pas vraiment quelle est leur vie en dehors de cette période précise. On ne sait pas vraiment comment tout cela fonctionne. On les retrouve vraiment dans ce huis clos, dans cette clairière. Et il y a cette forêt autour d'eux qui finalement est comme presque comme les cordes d'un ring.
Ah, c'est exactement ça. Les personnages sont au centre. Toute la scène est au centre. Et de la forêt vont venir deux choses différentes, vont sortir deux choses différentes. Il y a déjà tout l'aspect poétique que j'ai voulu mettre dans ce roman. L'héros principal, enfin l'un des deux héros principaux de ce roman, c'est Stig, qui est un jeune seigneur au pied beau, qui est fasciné par la forêt, qui est émerveillé par beaucoup de choses, mais la forêt aussi. C'est un personnage, c'est un poète. Stieg, il passe des jours et des jours, alors pas avec du vin, mais des jours et des jours dans la forêt à regarder la lune qui se couche sur les arbres, à sentir l'odeur du vent, à écouter juste le bruit de l'eau. Alors évidemment, je ne raconte pas ça dans Que passe l'hiver, je veux dire, parce que je crois que 30 lignes sur des gens qui regardent des forêts, ça se fait, mais ce n'était pas en tout cas l'objet de ce roman. Mais il est émerveillé par tout ça. Et il porte cet amour de la forêt, il porte cet amour de la nature, qui est très en lien avec l'amour des mythes et du mystère. Mais de la forêt surgissent aussi les complots, le sang, tout ce qui est caché. Mais on a tous parlé un petit peu de tout cet imaginaire et ce danger que l'on ressent dans l'obscurité. Et du ring, de derrière les cordes du ring, surgissent les poignards, surgissent les complots, surgissent tous les mots, M-A-U-X, qui vont venir perturber ce monde qui est en effet à son crépuscule et qui vont bouleverser un ordre millénaire.
Parlons un peu du roi et on ira ensuite se balader vraiment dans la forêt, puisqu'il y a aussi quand même des passages qui se déroulent directement au cœur de cette forêt. Ce roi lui-même est une créature quasi forestière, avec ses bois sur la tête.
Oui, complètement. Alors le roi de la clairière, il est mi-homme, mi-dieu. C'est le fils du dieu de la clairière et d'une mortelle. Il a des grands corps de cerf sur le front et les yeux totalement noir, la peau d'une blancheur presque comme celle de la neige. Il est très mutique, très en retrait, il ne parle pas, mais il est là et il est détenteur de la clairière, il est détenteur de l'histoire de la clairière, il porte tout ça, il est, à mon sens, c'est le symbole de la clairière. Durant le roman, les héros partent à un moment, c'est une quête qui est très importante pour les clans, c'est les clans qui partent à la recherche de l'âme de la clairière. Le roi est aussi l'âme de la clairière. Quand j'ai écrit Que passe l'hiver, j'ai cherché une figure, j'ai cherché un millième de seconde, parce qu'elle m'est tout de suite venue, c'est la figure de Cernunnos, qui est un dieu celte, qui est dieu de la vie et de la mort. Mais alors, rien que ça, c'est fascinant, et on reboule encore sur les mythes qui expliquent la vie et qui justifient la mort. C'est une puissance évocatrice phénoménale qui est liée à la forêt, effectivement ce cerf, cette créature au corps de cerf, qui est mélange de tout ça, qui est l'espoir, le désespoir, la vie, la mort. Et c'était une figure qui centrale et qui, pour moi, justifiait rien qu'à elle-même et rien qu'à elle seule l'existence de ce roman.
Stéphane Plateau, au cours de l'épopée des personnages du Sentier des Astres, ils vont finir par quitter le fleuve, plus ou moins contraints quand même, même plutôt plus que moins. Et ils vont quand même devoir rentrer vraiment dans la forêt. Vous parliez tout à l'heure du côté hospitalier vivant. Ils vont y faire des rencontres. Hein, et en particulier, ils vont rencontrer un peuple qui s'appelle le peuple Teul et qui, lui, vit littéralement dans la forêt. C'est même pas une formule, c'est vraiment ça.
Oui, tout à fait. Et en plus, ils vivent dans la forêt boréale, ce qui veut dire qu'ils vont devoir passer l'hiver, malgré tout, dans cette forêt où l'hiver est quand même assez rude. Hein, c'est un peu la Sibérie, hein, donc c'est pas très commode. Et je voulais que ce soit un peuple extrêmement primitif dans cette technologie. Donc c'est un peuple qui ne possède pas le métal, ou alors très très peu, mais qui ne peut pas le fabriquer, qui ne peut pas le fondre. Et d'ailleurs, pour qui le métal a une valeur sacrée, parce que... qui persuadait que le fait de passer au bronze ou au cuivre, qui est un matériau qu'on ne peut pas produire soi-même ou ramasser dans la forêt, qu'on ne peut pas fabriquer, c'est ça qui fait naître des classes sociales, qui fait naître le fait que des hommes soient plus riches que d'autres, et ce n'est pas acceptable. C'est un peuple qui donc va aussi devoir se débrouiller avec les moyens du bord pour produire ce dont il a besoin dans la forêt. Et ça pose notamment la question des étoffes, du fil, etc., etc. Alors il y a des moyens naturels qu'on peut trouver dans la forêt, qu'on peut fabriquer, et puis... eux, ils ont quelques évolutions qui les mettent un petit peu sur la ligne de séparation entre l'humain et autre chose, dont la capacité qu'ont les femmes de produire du fil avec une glande située dans leur bouche, et puis d'exploiter d'autres créatures de la forêt pour trouver notamment les scarabées tisserands là, qui produisent de grandes étoffes, des scarabées tisseurs, donc qui sont intéressants. Il y a toute une relation papillon aussi. Hein, c'est le Grand Nord, on a la migration des papillons monarques, on a toute une série d'autres espèces de papillons réels ou imaginaires. Et voilà, la forêt, c'est aussi avant tout pour créer ce peuple. Il fallait que je connaisse l'environnement dans lequel ils vivent. Et bon, la forêt boréale du Vientrir, c'est pas seulement la taïga sibérienne, c'est aussi d'autres formes de créatures, de faune et de flore. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup développer sur le mode du Planète Opéra. On a les arbres carnivores, par exemple, hein, les piliers de Torun, qui sont des grands arbres qui ont une sève au printemps, qui émet une odeur terriblement attractive pour les oiseaux, les petits rongeurs, etc., dans lesquels ces rongeurs s'approchent pour butiner cette sève qui s'écoule en perles lentes le long des troncs. Et dès qu'ils se retrouvent dessus, ils se retrouvent attirés par l'odeur, englués dans la sève, ils ne peuvent plus en sortir. Et leur propre poids entraîne ces gouttes plus bas vers le sol où entre les racines, il y a une sorte de petit lac aux vertus acides qui permet aux arbres alors de se nourrir vraiment de ces créatures. C'est un spectacle assez hypnotisant. Voilà, donc il y a toute une série de, il y a tout un bestiaire dans cette forêt qui permet aussi au peuple Teul, que le peuple Teul a appris à connaître et avec lequel il a appris à survivre ou dont il a appris à tirer parti.
Alors vous l'aurez compris en écoutant Stéphane à l'instant, on était parti sur une forêt qui était plutôt inhospitalière a priori, et d'un seul coup on rentre dans une forêt qui devient un paysage d'une poésie et d'une beauté et qui te permet de nous montrer des choses incroyablement belles. Dans tout ce passage-là, et énormément de sérénité aussi dans cette période du cycle.
C'est vrai qu'il y a de la, beauté, notamment les teules habitent dans des grands troncs, les drones de Scilly, les arbres velours qui sont drapés d'une sorte de mousse bleutée qui donne vraiment des coins de forêt qui sont juste magnifiques. Il y a les arbres géants qui sont aussi des grands habitants de mes forêts en général, puisqu'on les retrouve aussi bien dans le Vientrir que dans la forêt du Lempio, qui est une forêt là dans l'île du Fintami. Alors c'est une forêt assez particulière parce que cette forêt, le Lempio, elle comporte les arbres géants les plus connus de mon univers. Là-bas, tout au nord, ils sont toujours légendaires, personne ne va jamais plus les voir. Mais il y a des habitants au bord de cette forêt, dont la dame Nayolée du Harfang et sa fille, qu'on découvrira dans la saga à travers un des récits de vie. La dame Nayolée du Harfang est la suzeraine de ce coin de forêt. Ça veut dire que ses ancêtres ont passé des pactes avec les habitants de la forêt. Et cette forêt a des seigneurs des bêtes. On a un seigneur renard qui s'appelle Apu, on a un seigneur blaireau qui est un peu moins commode, seigneur guêpe, et puis on a bien sûr Charogne, une ourse gigantesque. Et tous ces seigneurs des bêtes sont, depuis des temps immémoriaux, vassaux de sa famille. Vassaux, mais qui sont des vassaux qu'il faut traiter avec beaucoup de tact et avec beaucoup de respect. Et donc, Niseux, qui est la fille de cette dame Nayolée, quand elle rentre dans la forêt, accomplit toute une série de rituels pour ne pas offenser la forêt. Quand elle passe dans le domaine d'un autre seigneur, elle fait attention. Elle fait encore plus attention quand elle passe la frontière de deux seigneurs qui sont en guerre. Parce que là, elle sait que c'est tendu, elle vient du domaine d'un ennemi. D'ailleurs, on le voit à la frontière des deux domaines, on voit les arbres qui se battent, on voit qu'ils introduisent leurs racines pour se miner les uns les autres, qui tissent des réseaux. Et donc, il y a des rituels à faire, il y a des courtoisies à faire. Par exemple, si on voit un chêne respectable qui est pris par la gale, on va gratter cette gale pour faire des courtoisies qui seront rendues plus tard, qui vont donner bonne réputation à cette humaine dans cette forêt, même si elle est la fille du seigneur, qui est leur suzerain en titre.
Fascinant, extraordinaire. Il est aussi à l'aise à l'oral qu'à l'écrit, vous avez remarqué, hein. C'est assez énervant.
Moi, ce qui m'énerve, c'est la chaise vide, hein. Je vois que, encore une fois, le ministre de la Culture n'est pas venu, quoi. C'est...
Patrick, dans l'Enfant de poussière, Sif se retrouve en forêt. Alors, le passage se nourrit de votre expérience, mais en l'occurrence, pour Sif, ce n'est pas une expérience très positive, parce qu'il est en fuite. Et que lui, pour le coup, la forêt, ça le ravit pas plus que ça.
Ah ben, je pense que ça dépend des fois, en fait. J'ai l'impression que Sif, il a un rapport assez... un peu comme le mien, en fait, à la forêt. Au bout d'un moment, quand on arrive à faire sens des codes de n'importe quel milieu, finalement, là, en l'occurrence, la forêt... je crois que Sif, il se met à les apprécier, d'autant qu'elles sont beaucoup moins, sont beaucoup plus évidentes en fait que les codes des hommes. Qu'il a dans sa vie, il a beaucoup plus souffert de la façon dont il a été traité par ses semblables que la façon dont il a été traité par la forêt. La forêt, en réalité, à partir du moment où il l'a apprivoisée, ça devient un espace nourricier pour lui et ça devient un refuge, un endroit où il peut se cacher. C'est aussi l'endroit qui a hébergé ses jeux d'enfants avec ses amis des clans. Donc, dans mon univers, Sif voyage pas mal dans sa courte existence. Mais il passe son enfance avec les peuples auxquels on pense qu'il appartient, donc les Sif, les Gaïch, les Gaïkt et les Painot, qui sont des habitants semi-nomades des hautes terres et de la forêt de pierre. Qui eux sont des forestiers accomplis et son amitié notamment avec une fillette gaïche va commencer en fait son apprentissage de la forêt aux côtés de Drish, donc qui est un des personnages du premier tome. Et par contre il va y revenir de façon très différente dans cette forêt dans le tome 2, puisque là il est plutôt au début, du moins, dans une logique de survie et puis ensuite dans une logique conquérante.
Il y a quand même dans le premier tome, dans cette partie, j'allais dire presque survivaliste aussi, il y a un petit côté comme ça.
Le livre 3. Ouais.
Mais il y a aussi un côté carcéral, d'une certaine manière, parce qu'il est là pour se cacher, il n'a pas le droit de sortir de cette forêt, et finalement, ça lui pèse quand même un petit peu.
C'est le contexte aussi. C'est-à-dire que c'est aussi ce qu'il y vit. C'est-à-dire que la forêt dans ce troisième livre, je l'ai effectivement conçu comme un endroit dont Sif était, je ne vais pas dire retenu prisonnier, mais en fait, comme tu disais, il est recherché. Donc il n'a pas d'autre choix finalement que de rester là où il est, mais surtout c'est la compagnie en laquelle il est obligé de rester qui va vraiment le peser en fait. Enfin, je pense que l'apprentissage qu'il fait à ce moment-là, notamment des armes et de sa propre colère, c'est surtout ça l'enfer pour lui.
Un personnage orgueilleux, il voudrait réussir tout de suite.
Oui.
Or il est face à un guerrier qui a beaucoup plus d'expérience que lui. Oui. Et il va mettre un bon moment avant de réussir à enfin trouver une faille.
Oui, absolument. J'aime bien le plateau où se déroule l'action. Pour moi, j'ai vraiment essayé de le dépeindre. Donc c'est un plateau forestier. Hein. J'ai vraiment essayé de le dépeindre comme un espèce de huis clos à ce moment-là, qui est aussi fermé par la nature isolée dans laquelle elle se trouve, mais aussi fermé d'un point de vue intellectuel. En fait, on est dans un et physiquement de par la présence, l'occupation de la forêt, on est sur deux tâches monomaniaques, le dressage de Sif et il y a rien d'autre, et le fait de rester invisible et il y a rien d'autre.
Il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le fait que c'est une période longue. Oui. Ce qui, en fantasy, n'est pas toujours très évident. Hein, ça va souvent vite. Là, ils vont rester un long moment. Et il y a un élément qui est très important, c'est le passage des saisons.
Ouais.
Parce que l'hiver en forêt,
c'est beaucoup moins simple.
C'est compliqué.
C'est beaucoup moins simple, oui. Alors, heureusement, mes personnages ne se trouvent pas dans une forêt boréale. Ils se trouvent dans une forêt tempérée assez classique, avec un mélange d'essence... Le plateau où il se trouve notamment est peuplé majoritairement de bouleaux. En hiver, l'existence ressemble à une sorte de routine. Encore une fois, enfin, je comprends ce que tu veux dire. En fait, l'aspect claustrophobe, il est effectivement là.
On peut encore moins se déplacer qu'à la belle saison.
Exactement. Et puis on est sans cesse happé par ce qu'il faut faire pour survivre, c'est-à-dire entretenir le feu. Donc ça, c'est des corvées de bois quotidienne, c'est aller chercher de l'eau, briser la glace.
Mais on ne peut plus chasser.
C'est beaucoup plus difficile de chasser.
On ne peut plus cueillir. On peut plus, voilà,
on mange ses réserves. C'est toujours les mêmes parce que il n'y a pas une énorme variété. Voilà. Non, les haricots, c'est bien ça. C'est le pémican que j'ai appelé saucisse sèche, pardon, dans le livre, mais
Colin Hine. On a donc une scène d'exploration. Je le disais, c'est un enjeu. Alors, je ne sais pas si on peut expliquer quel est l'enjeu que représente cette forêt, mais elle va se retrouver finalement au cœur d'un complot politique et économique très important, puisque on va retrouver finalement des thématiques qui sont très contemporaines, avec des enjeux énergétiques très, très puissants. Mais on se retrouve vraiment, puisqu'on est dans un univers rétro-futuriste, avec une expédition, entre guillemets, à l'ancienne, d'une certaine manière. C'est un peu la cité perdue de Z, non, votre forêt ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, effectivement, enfin, comme tu dis, cette forêt, elle représente un enjeu énergétique en ceci qu'elle est inexplorée. Et dans le monde que j'ai inventé, on a besoin d'un minerai qui permet de produire beaucoup d'énergie, ce qui explique en fait toute la partie futuriste de ce monde qui se situe en réalité d'un point de vue artistique et social plutôt dans le passé, avec des choses, voilà, art nouveau, des classes sociales très marquées. Et effectivement, voilà, il y a cet enjeu énergétique. Et en même temps, un des personnages, je ne vais pas trop en révéler, mais un des personnages, lui, a un autre agenda, c'est-à-dire qu'il accompagne l'expédition. Et comme tu l'as aussi évoqué, il y a aussi un enjeu lié à une affaire d'espionnage international. Et ça, pour moi, à nouveau, c'est un petit peu quelque chose de liant dans tout ce mélange de passé et de futur, et puis de comment dire, d'aspect citadin et d'aspect sauvage, brut de la forêt, que je trouve très pratique et très intéressant à explorer, en réalité.
Là encore, vous vous démarquez par rapport à vos trois petits camarades, puisque on a bien compris, il y a une espèce d'harmonie chez les trois autres, nécessaire entre l'humain et la forêt. Or, chez vous, il y a une agressivité réciproque d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a, on imagine bien que cette recherche de minerai ne va pas faire du bien à cette forêt, et on a la sensation que cette forêt, elle se défend.
Oui, c'est quelque chose que on peut éventuellement interpréter. Alors, je pense que si on cherche à interpréter ça, il faudrait raisonner à un niveau très global par rapport à l'ensemble du roman. Il se trouve que, je vais essayer d'expliquer ça. Steampunk, y a le mot vapeur dedans, et moi j'ai pensé que ce serait amusant de thématiser cette vapeur. Alors en fait j'ai appelé ça la vape, et je parlais d'un minerai là, que toutes les des grandes compagnies en fait recherchent aux quatre coins du monde. Et en fait ce minerai permet de produire, enfin de chauffer de l'eau et de produire une vapeur épaisse, visqueuse, lourde, mais qui dégage une énergie bien plus puissante que celle de la vapeur normale, et donc qui explique en fait toutes les possibilités technologiques qui sont celles qui sont décrites dans le livre. Et alors, sans trop m'attarder dessus parce que c'était pas le sujet, mais j'avais envie de décrire un monde pas post-apocalyptique mais post-catastrophe, on va dire. Pour une raison très simple, c'est parce que je trouve que ça me permet plus de liberté, c'est tout. J'avais envie de dire que quelques années, quelques temps indéfinis auparavant, au moment où commence l'histoire, il y a quelque chose qui s'est produit avec cette vape. Il y a une grande explosion, ce qui fait que le monde est aujourd'hui recouvert par cette brume épaisse qui ne laisse que quelques poches vides à l'intérieur desquels les êtres humains ont pu recommencer à construire des villes, à développer une vie moderne avec de la technologie. Et ce que les êtres humains n'ont pas pu prendre à l'horizontale, ils l'ont pris à la verticale. Donc en fait, toutes les villes sont organisées en grands piliers. Et entre ces piliers, une mer de vape partout, sauf à certains endroits inexploré. Et c'est là que toutes ces grandes compagnies envoient des gigantesques dirigeables explorer, rechercher, etc. À la recherche de ce minerai. Et alors, on peut dire que effectivement, si on considère que cette forêt, en fait, elle se défend. Indirectement, on porte un jugement aussi sur cette tendance des êtres humains à vouloir toujours chercher plus d'énergie, plus de possibilités, etc. Alors, c'est pas une chose que j'avais vraiment en tête en écrivant, mais je trouve que c'est intéressant de l'interpréter éventuellement comme ça. Voilà, sachant que c'est une interprétation qu'il faut grandement nuancer, parce que moi, je considère que je suis plutôt progressiste, donc je suis pas contre le progrès technique, etc. Mais il y a peut-être des modalités sur lesquelles il faut s'interroger, en fait, c'est surtout ça. Voilà.
on ne retient pas forcément les, on ne retient pas forcément les leçons du passé.
Oui, on peut dire ça. Et puis si on s'interroge aussi sur les liens qu'il y a, ou même sans parler de liens, si on s'interroge sur notre monde aujourd'hui, oui, il y a énormément de leçons qui ne sont pas tirées, effectivement. Oui.
David Brie, allons nous balader un peu dans cette forêt qui entoure la clairière, puisqu'il y a quelques scènes où Stig se promène. Là, il faut peut-être qu'on fasse quelques précisions. Les différents clans ont tous des pouvoirs particuliers. Chaque clan a un pouvoir particulier. Le pouvoir du clan auquel appartient Stig, c'est la métamorphose en animal. Lui est un peu... il a son pied beau, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc il se transforme en oiseau, mais dans sa famille, on se transforme en animaux plus puissants, plus imposants. Et la forêt, bah, c'est aussi l'occasion d'aller se dégourdir un peu les pattes, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Alors, comme tu l'as dit, donc Stig se transforme en corbeau, et même sous sa forme de corbeau, il a la patte tordue. C'est à la fois une malédiction et à la fois une grande chance. Une malédiction, pourquoi ? Parce que dans un clan de c'est plutôt la force physique qui est valorisée. Qui est fort, c'est le loup est fort. L'ours, bien sûr, est une grande figure de la forêt, comme les loulous de manière un peu différente. Le renard, le lynx, tout ça sont des figures assez fortes. Le corbeau, il ne sert à rien. Le corbeau, il est très à l'image de Stig. Stig pense qu'il ne sert à rien, alors qu'il est dépositaire de beaucoup d'autres choses. Stig est très affecté par son handicap, puisque son père le méprise à cause de ça, puisque Stig n'est pas un guerrier, il n'est qu'un infirme. Stig se plaint aussi de sa forme de corbeau. Et pourtant, c'est là où, en effet, il trouve le repos. Stig, quand les choses deviennent trop difficiles, comment est-ce qu'on fait pour se ressourcer ? Alors, il y a plein de façons de le faire. On peut se mettre en colère, on peut crier. Stig, il s'éloigne. Stig, il s'envole. Il prend sa forme de corbeau et c'est ça qui l'apaise. Il vole. Il vole au-dessus de la clairière et au-dessus des forêts. Et c'est dans cette solitude, on parle tous là de la forêt comme quelque chose qui peut être à la fois bienveillant ou oppressant. La forêt peut être aussi très apaisante, et je trouve la forêt très apaisante. Et Stig va chercher cette paix et un remède à sa colère ou un remède à sa peine aussi dans la forêt, sous sa forme de corbeau. Il vole au-dessus des arbres, il goûte le goût du vent et le silence. Et c'est quelque chose qui lui permet de trouver un certain équilibre et qui permet surtout, comme je le disais, d'apaiser sa peine.
Autour de lui, il a donc d'autres frères qui, eux, ont des totems animaux un peu plus en rapport avec le contexte, en particulier un frère qui s'en transforme en loup, ce qui va aussi amener, vous le verrez, des situations où là, la forêt joue aussi son rôle de décor, mais pas uniquement, puisque c'est là où on peut tendre des embuscades, où on peut s'attaquer, se contrer et intervenir. Pour un écrivain comme vous, c'est là aussi, il y avait un terrain de jeu intéressant par les possibilités différentes que ça offrait.
Oui, complètement. Il y a le symbole, on en parle beaucoup, le symbole de l'ours, le symbole du loup, le symbole du corbeau qui est le messager des dieux, très étonnamment. Le combat, c'est quelque chose qui est très intéressant. On a des littératures d'opposition. La littérature est souvent une littérature d'opposition ou bien de voyage. En l'occurrence, Que passe l'hiver, c'est une histoire d'opposition. C'est un drame où les gens s'opposent pour des raisons personnelles ou bien parce qu'ils ont des objectifs différents. Dans l'opposition, il y a aussi le combat. Alors, j'aime beaucoup les combats. J'ai beaucoup aimé la chevalerie. J'aime beaucoup la chevalerie. Les gens du roi Arthur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré et qui m'anime encore beaucoup aujourd'hui. Les combats à l'épée, les combats à cheval, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Et que donne un combat quand on est animal ? Effectivement, dans Que passe l'hiver, il y a plusieurs complots, plusieurs pièges. L'un des combats que j'ai beaucoup aimé décrire, c'est effectivement Stig entré dans un piège qui fait une rencontre peu recommandable avec une créature très dangereuse. Et arrive ensuite un combat, je ne vais pas trop en dire pour pas vous révéler ça, et arrive effectivement ce moment où des humains souffrent, des hommes sous forme d'animaux se mettent à se battre. Et du coup, les armes sont différentes. Si on parle de crocs, on parle de griffes, on essaie de se déchirer la gorge, on essaie de se lacérer le ventre. Et c'est une autre manière de parler du combat et une autre manière aussi de parler de l'animalité. Le combat, c'est aussi laisser parler l'animal qui est en nous, la colère qui est en nous et qui aussi, elle, est très, est notre part animale. Et c'est forcément, tout ça est très, très lié.
Stéphane Plateau, dans Manèche, dans Le Sentier des Astres, même, puisque ça va au-delà de ça, là, en l'occurrence, on serait même carrément plutôt dans le deuxième tome par rapport à ce qu'on va évoquer. C'est aussi un terrain complexe pour les personnages. Lorsque la menace approche et qu'il faut s'enfuir, c'est un peu plus compliqué que si on était en terrain découvert, on va dire. On peut se cacher, mais en même temps, il y a des obstacles.
Oui, voilà, il y a des avantages et des inconvénients stratégiques à la forêt. Hein. On sait que quand une ville s'apprête à subir un siège, la première chose qu'on fait, c'est raser les arbres autour pour que l'ennemi ne puisse pas approcher, ne puisse pas se cacher, ne puisse pas s'en servir. Par la même occasion, on rase aussi les maisons qui ont été construites trop près du rempart. Bon, ça, tant pis pour eux. Voilà.
Il y a cette période avec chez les Teules qui est une période plus calme, plus posée. Et puis, la menace revient, menace diffuse, dont on sait pas, qu'on n'arrive pas forcément très bien à matérialiser. Et il y a donc la fuite dans la forêt. Et là, encore une fois, l'avantage de la rencontre avec les Teules, c'est qu'ils la connaissent les yeux fermés, la forêt.
C'est-à-dire qu'ils connaissent tous les sentiers de la forêt et ils connaissent tous les sentiers de l'envers de la forêt. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais ils ont une capacité à voyager d'un lieu à l'autre de la forêt qui n'est pas proprement humaine.
J'exagère un petit peu tout à l'heure en disant que il n'y avait que chez Colin que l'homme s'en prenait à la forêt, parce que chez Stéphane Plateau aussi, à un moment, l'homme s'en prend à la forêt.
Oui, ou en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas exactement l'homme qui s'en prend à la forêt, ce sont malgré tout des puissances primordiales elles-mêmes qui s'en prennent à la forêt avec un moyen primordial qui est le feu. Et elles le font, bien que ce soit des puissances forestières, elles le font sans grand remords. Et les Teules eux-mêmes, au départ, voient l'incendie de forêt et leur réaction n'est pas de dire... Mon Dieu, quelle horreur, des arbres millénaires vont brûler, quelle perte irremplaçable, etc. L'homme est décidément un monstre. Non, c'est, beaucoup d'arbres vont brûler et vont réensemencer la terre. Parce que les feux de forêt sont aussi une façon de renourrir la terre, de nourrir la génération d'arbres suivantes qui croîtront plus fort, etc. Donc, quand les arbres tombent, parce qu'ils ne tombent pas toujours. Donc, il y a là un cycle naturel. Ce que je voulais éviter dans ma saga, c'est de trop projeter nos préoccupations d'hommes du XXIe siècle. On a dans notre motivation à la fantasy l'envie de renouer, je crois que c'est même une des motivations fondamentales, avec une époque où l'homme ne dominait pas la nature, où l'homme ne la maîtrisait pas, où on avait peur des fauves, peur de la nuit, peur de la forêt, peur de ce qui était tapis en nous-mêmes et qu'on ne maîtrise pas non plus. Et y a une forme d'idéalisme, un peu comme le mythe du bon sauvage auparavant, qui est de dire au moins à l'époque des druides. Les druides aimaient la forêt, comprenaient la forêt, parlaient aux arbres, etc. Je ne crois pas que ça soit une façon juste de rendre cette époque. Je pense qu'on faisait partie de la nature, qu'on n'avait pas la même idée de s'en être affranchi, d'être quelque chose de supérieur. Et je pense aussi qu'on restait en lutte avec la nature et qu'il y a une série de catastrophes qui étaient simplement des cycles naturels et des choses qui arrivent, quoi.
Il n'y a pas de druide qui parle aux arbres, mais il y a un barde qui chante aux arbres.
Oui, alors les bardes ont un trésor. Le trésor que recherchent les bardes par excellence, ce sont les chants primordiaux. Les bardes ont une certaine capacité d'influencer les émotions humaines par la musique, mais ça reste relativement limité. Par contre, les chants primordiaux, qui ont été écrits par la première née à l'aube des temps, sont des chants qui racontent l'origine des choses sous une forme sous forme de poésie orale. Quand un barde arrive à retrouver, ça se transmet de bouche de barde à oreille de barde, mais il faut prouver qu'on en est digne, ou c'est assez difficile à obtenir. Il faut vraiment progresser beaucoup. Quand un barde arrive à trouver un chant primordial qui raconte l'origine d'une chose, s'il arrive à l'exécuter de façon parfaite, avec exactement les bons accords, les bonnes harmonies, la bonne façon d'effleurer les cordes ou de les étouffer, toutes les petites subtilités de l'art musical. Si l'exécution est parfaite, alors il peut séduire cette chose, demander un service à cette chose et obtenir un pouvoir assez colossal quand il arrive à le faire. Donc chaque barde essaie d'avoir un, deux, trois chants primordiaux dans son répertoire. Rares sont ceux qui arrivent à en avoir plus, mais ce sont leurs pouvoirs les plus puissants et ils ne les utilisent que très rarement. Et donc, en une certaine occasion, le barde va devoir s'y essayer pour demander l'aide de la forêt et raconter l'origine de la forêt. Et c'est une scène qui, outre l'exaltation du barde, qui est une figure que j'adore, m'a permis aussi de raconter un petit peu la généalogie de la forêt et de lui donner une vie à travers le temps, sur la durée. La forêt, c'est quelque chose qui vit à un rythme infiniment plus lent que nous, mais ça vit. Les arbres grandissent, ils se déplacent malgré tout, ils gèrent leur environnement, ils se rééquilibrent, ils ont des liens familiaux, ils communiquent par les racines, ils se parlent, on découvre des choses fascinantes sur les arbres, mais tout ça, c'est à un autre rythme. Et puis, il y a des générations d'arbres, et effectivement, une forêt, au départ, sont des arbres qui vont pousser, tomber vite pour nourrir cette terre et puis qui vont donner place à des essences qui vont être plus durables, etc. Ça a vraiment permis, depuis il y a les glaciations qui interviennent et puis les déglaciations, ça a vraiment permis de mettre, parce que ces champs primordiaux remontent très très loin dans les airs, à des époques que l'homme n'a pas connues, mais dont ces champs gardent mémoire, ça permet vraiment de mettre la forêt en perspective et de lui donner une histoire plurimillénaire, en fait.
Patrick Dudenay, on va quitter l'enfant de poussière. Et on va aller dans le deuxième tome, La peste et la vigne, deuxième tome de ce cycle de Sif, puisque là aussi, on y croise une forêt. Alors, on ne va pas trop vous contextualiser, parce que c'est quand même la dernière partie du deuxième tome, donc on ne va pas trop non plus vous expliquer comment on en arrive là. Mais elle devient un cadre totalement différent de ce qu'on a évoqué précédemment, puisque jusque-là, nous avons parlé de la forêt comme un lieu de vie, avec les avantages et les inconvénients. Là, elle devient un champ de bataille.
Oui. Oui, dans le deuxième tome, on se retrouve effectivement à suivre une guérilla sur à peu près la seconde moitié du livre. C'est vrai que c'est difficile d'en parler sans spoiler. En fait,
il faut vraiment se tenir au sujet de la forêt.
Ouais, voilà. C'est ça. Non, mais pour le coup, pour la contextualiser vaguement, puisque c'est pas la première fois que cette guerre-là est menée, et je l'aborde quand même dans le premier tome, donc je pense que je peux quand même poser quelques éléments sans que ça en dévoile trop. Donc ça se passe sur les terres de Vaud. Donc la forêt de Vaud, c'est une des grandes forêts que je mets en scène dans le cycle. C'est là où donc Sif est entraîné par un de ses mentors, donc le guerrier Var Uldric, durant le premier tome, et c'est là où a lieu son hivernage et donc effectivement l'épisode dont tu parlais tout à l'heure. Mais cette même forêt en fait abrite depuis assez longtemps un groupe de rebelles qu'on appelle les Feuillus, et qui sont en guerre ouverte contre la primauté de Vaud, donc qui est on va dire l'autorité proto-féodale qui gère cette région là quoi. Là aussi en fait les hommes vont mener une guerre contre la forêt, puisque on a notamment l'emploi du feu. C'est-à-dire qu'en gros, quand on arrive au moment de cette guerre dans le tome 2, on se trouve en fait au moment où la guerre a déjà basculé. En gros la guerre est gagnée et il s'agit maintenant de mener une conquête pour aller chercher et détruire l'ennemi qui a envahi quoi. Et du coup, à cet effet, le feu a été utilisé. Et là, la guerre elle-même a été gagnée essentiellement en brûlant la moitié de la forêt vauvoise. Donc c'est une espèce de spectacle de dévastation que le personnage vit extrêmement mal, puisque d'une part c'est juste des étendues carbonisées à perte de vue, mais c'est aussi un des endroits il a placé beaucoup de lui-même. C'est l'endroit, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, où il s'est construit. Et ce pays dévasté, du coup, lui évoque des choses extrêmement difficiles.
La particularité, c'est que c'est une guerre où les deux camps ne sont pas à armes égales, Ouais. Il y a le nombre d'un côté et, on va dire, d'une certaine manière, la technologie. Ouais. Mais de l'autre, on a les feuillus qui sont cet avantage énorme qu'ils connaissent le terrain comme, oui. si, enfin voilà, comme s'ils en étaient presque, comme s'ils étaient presque en symbiose avec lui. Hein.
Absolument. Et d'ailleurs, c'est cette étrange symbiose, c'est pareil, elle est effleurée au travers des deux premiers tomes et on en sait un peu plus à la fin du second. Mais l'adversaire Vauvois a constaté pendant la guerre qu'en gros il pouvait servir du feu pour détruire la forêt, que lorsqu'il procédait ainsi, les feuillus étaient généralement contraints à se replier ou du moins ne pouvaient plus combattre comme ils le faisaient avant. Alors ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi. Pour eux, ils mettent le feu à la forêt parce que ça permet de dégager des espaces, en gros, où l'ennemi ne peut pas se réfugier, ne peut pas pratiquer sa guérilla.
Il perd son côté invisible.
Exactement, l'ennemi. Voilà, il s'agit en gros de délimiter l'espace et de. C'est un peu une sorte de. le jeu avec les bateaux de bataille navale géante, en fait. Quoi. On brûle des parties entières de son territoire pour être certain de savoir où est-ce qu'on va avoir à combattre les feuillus. Et effectivement, l'aspect symbiotique, on va le découvrir sur le tard. Mais c'est pas. Enfin, je pense que peut-être contrairement à Stéphane, j'ai moins un côté vraiment mystique dans le rapport que peuvent avoir les feuillus avec la forêt, même si eux le conceptualisent de cette façon-là. Puisqu'en fait, derrière les feuillus, on a une autre entité politique. Qui pareil est évoqué dans les premiers tomes, donc que je spoil pas, le peuple Ketoy, qui est un peuple très mystérieux dont on ne sait pas grand chose à part qu'a priori ils instrumentalisent la rébellion feuillue pour des causes inconnues, et on sait qu'à chaque fois que les feuillus remportent des victoires, les Ketoy ou les sorciers Ketoy du moins sont là quelque part derrière eux.
Colin Hine, pour terminer cette table ronde, c'est vrai qu'on le disait, la forêt tient pas une place primordial, pour faire un très très mauvais jeu de mots pour terminer cette table ronde dans votre ouvrage, mais elle est quand même un enjeu, et finalement elle est un enjeu presque abstrait pour vos personnages principaux qui vont découvrir finalement tout ce qui se trame petit à petit, avec un personnage qui est un naïf idéaliste, un gentil garçon qui va se retrouver embarqué dans des histoires qu'il dépasse complètement. Et puis, est-ce que c'est vraiment son meilleur ami ? C'est une relation un peu particulière, mais un grand balèze explorateur, un peu à la Indiana Jones, qui, lui, au contraire, va avoir ce contact avec la forêt, puisque c'est lui qui va mener l'expédition. Et finalement, aucun des deux n'a vraiment conscience des enjeux qui sont en place dans cette histoire.
Non, effectivement. Alors le premier, pour les raisons que vous avez dites, hein, effectivement, mon personnage principal, mon héros, c'est plutôt un anti-héros, en fait. Hein. Il est rêveur, il n'a pas les pieds sur terre, il ne sait pas trop ce qu'il fait, il ne comprend rien, ou presque, mais il sait s'entourer de gens qui l'aiment, ou en tout cas qui tiennent à lui.
Il a une gouvernante qui l'aide beaucoup.
Il a une gouvernante qui lui casse les pieds, mais c'est parce qu'elle l'adore et qu'elle ne s'est
pas
aimée autrement.
Sans elle, il serait perdu. Hein.
Pardon, sans elle, il serait perdu. Sans l'autre personnage dont vous parlez, effectivement, qui est un petit peu un ami, puis qui est aussi un petit peu une relation d'affaires, entre guillemets, parce qu'ils ont un petit trafic gentil, mais voilà, c'est pas des grands criminels, mais effectivement ils tiennent quand même l'un à l'autre. Oui, effectivement, la forêt telle qu'elle est décrite dans le livre va permettre en fait plusieurs choses. En dehors de ces deux chapitres d'exploration et j'espère en tout cas de tension. D'une part, ça va permettre de mettre le doigt sur un point nodal de l'intrigue que les personnages vont découvrir, et ils vont avoir beaucoup de mal à tout démêler, mais à ce moment-là, ils vont comprendre quelque chose, ils vont formuler des hypothèses, essayer d'y voir clair. Et par ailleurs, là aussi, en essayant de ne rien révéler de vraiment gravissime, l'explorateur en question va rapporter un objet. Il va le rapporter, donc c'est un objet qui vient de la forêt, il va le rapporter dans la ville. Et cet objet dans la ville va déclencher, comment dire, va permettre d'introduire dans la ville certains des dangers auxquels le personnage de l'explorateur a été confronté dans la forêt. Et à cet égard, je vais me permettre un glissement peut-être un petit peu osé, mais alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure que mes villes, enfin dans le monde que j'imaginais, étaient construites en hauteur avec des grands piliers, en fait. Puis bon, on parle bien de jungle urbaine. Alors bon, je vais franchir le pas, je vais dire que voilà, la ville, c'est une forme de forêt quelque part. On peut, allez, puisque c'est le thème de la table ronde, on va faire ça. Et c'est justement ce que va rapporter ce personnage, cet objet, qui va permettre de faire le lien entre les deux. Et dans tous les cas, qu'il s'agisse de la forêt primale, brute, avec la vie qui s'y exprime à l'état surprenant, à l'état primal, on va avoir un petit peu avec la ville, premièrement, la continuation des dangers en lien avec toute cette intrigue, et puis aussi la confrontation du personnage avec ce qu'on peut considérer aussi comme des excroissances de la vie citadine. Alors il s'agira pas de vie biologique, mais par exemple il est confronté à une société d'assassins. Voilà. C'est quelque chose qui est né dans la ville. On ne sait pas pourquoi, hein, mais c'est une excroissance de la jungle urbaine, on peut dire. Voilà.
Avec un assassin fleur bleue, sans mauvais jeu de mots.
Pardon ?
Avec un assassin qui est très fleur bleue, sans mauvais jeu de mots.
Oui, je n'y avais pas pensé. Oui, effectivement.
Parce qu'il a, vous verrez que c'est un assassin pour qui une fleur tient un rôle très, très important.
Absolument, absolument.
Voilà, on termine cette table ronde. Juste pour préciser quand même, parce qu'évidemment, pour Colin en particulier, on a été obligé, par rapport au sujet de la table ronde, d'être vraiment, d'avoir un regard très précis sur un élément très particulier. Mais c'est juste pour vous dire que c'est un roman. C'est vraiment un roman d'aventure et d'espionnage. Donc c'est très spectaculaire, qu'il y a des passages vraiment très intéressants. C'est un univers qui est très intéressant à creuser, à développer. J'espère qu'il vous aura donné envie de le découvrir plus en détail, parce qu'il y a vraiment de quoi faire dans cet univers de la forêt des araignées tristes. Je vais vous remercier, vous qui êtes venus nous écouter cet après-midi. Évidemment, à nos quatre auteurs présents sur scène, merci pour cette balade en forêt que nous allons continuer ailleurs, dans un autre contexte, sous la bulle du livre. Si vous souhaitez rejoindre nos auteurs, continuer les discussions ou évidemment vous faire dédicacer quelques ouvrages. Merci beaucoup.
Merci.